au souffle de l'aventure qui habite sans nul doute la fantaisie de nos auteurs. Donc, et où vous nous voyez, donc Anne Besson, modératrice, et Anaï Guesnard à la traduction, entourée d'une brochette tout à fait impressionnante d'auteurs de fantaisie d'action. Je vais vous les présenter les uns après les autres, et nous attendons encore Michel Robert, hein, qui viendra compléter ce panel, ou pas, hein, s'il s'est perdu en route quelque part. Et voilà, on peut attendre une discussion particulièrement palpitante sur un tel sujet. Donc, on a d'abord l'honneur d'accueillir parmi nous l'auteur américain Peter Brett, qui est l'auteur d'une trilogie qui a rencontré un grand succès, hein, le cycle des démons, dont seuls les deux premiers volumes sont traduits pour le moment chez Milady, L'homme rune et La lance du désert. C'est vraiment de la fantasy d'action, c'est extrêmement palpitant, très efficace, tout en ne cédant pas, tout en conservant une complexité certaine, hein, dans l'évolution des personnages et l'arrière-fond du monde qui est dessiné. Voilà, je ne sais pas ce qu'il advient, j'ai pas compris exactement si The Daylight War était d'ores et déjà paru, ou si le suspense continuait. On n'a pas, en tout cas, encore en France. Deuxième dans l'ordre alphabétique, hein, que je vais suivre histoire de laisser le maximum de temps à Michel Robert, au nom qui commence par un R pour arriver, c'est Guillaume Lebeau, qui a écrit, donc je peux vous montrer, hein, leurs œuvres sont là, qui vient de faire paraître le premier volume de la saga de Sakari, qui s'intitule Banquise de feu, chez Rajo. Donc c'est un cycle, une série, je ne sais pas, qui s'inspire, hein, des sagas nordiques, et qui retrouve l'inspiration de son Iceland, qui était un des premiers volumes parus dans la collection Royaume perdu de Mango. Et par ailleurs, Guillaume Lebeau, qui pratique beaucoup de différents mauvais genres, et qui m'a l'air d'être un grand connaisseur des cultures underground, pour ce que j'en ai lu, a également écrit, fait paraître en ce moment une série qui s'appelle La guerre du futur, hein, 2008-2011, et qui est non, c'est pas La guerre du futur, comment ça s'appelle, hein, La guerre de... Aide-moi.
Non.
La dernière guerre, voilà, la dernière guerre, 2008-2011, donc qui n'est pas vraiment une uchronie, puisque c'est sur le... présent, hein, mais c'est un présent alternatif et apocalyptique, où on a brassé le thriller d'espionnage, les peurs millénaristes, l'actualité la plus brûlante. Jean-Luc Marcastel, bonjour, donc est le l'auteur bien connu de la série des Louis le Galou. Il y a 5 romans qui se déroulent au Moyen-Âge et qui nous renouvellent, hein, de manière vraiment intéressante la figure du loup-garou autour du parcours de ce jeune Louis. Et il a également fait paraître une trilogie Francia qui, alors là, revisite la Seconde Guerre mondiale, peuplée, hein, d'elfes, d'orques, de créatures magiques diverses autour d'un héros qui s'appelle Loiren, et qui, comme un peu comme Louis, hein, va être amené à voir son existence bouleversée par l'intrusion de la merveille et de l'histoire dans son existence. Pierre Pevel, hein, le suivant, donc également, hein, mélange histoire et tradition merveilleuse dans ses ouvrages qui sont déjà des classiques de la fantasy française. Il a commencé par Le jeu de rôle, ensuite il a fait paraître Ambremer, donc dans un Paris de la Belle Époque où il y a des fées, des gnomes, enfin, qui est en contact avec le royaume de féerie. Ensuite il y a eu Willstatt, hein, qui est qui relie la guerre de 30 ans en y faisant intervenir donc entre autres des dragons. Et puis il a terminé sa trilogie des Lames du Cardinal avec le Dragon des Arcanes, et donc cette fois c'était une incursion dans l'univers d'Alexandre Dumas avec ses habituels amis merveilleux. Et enfin, donc Michel Robert nous a rejoint. On a fait des blagues déjà sur votre.
C'est pour ça que j'avais
une oreille qui soufflait. Ouais, voilà. C'est ça. C'est aussi la course nécessaire pour arriver jusqu'à nous.
Bah, j'attendais bêtement devant le.
Ah. mais depuis longtemps.
Hier. Yeah. Voilà.
Bon,
ban.
Désolé et bienvenue. Michel Robert, notre dernier invité dans ce bel échantillon donc de la fantaisie d'action, est également un grand amateur de Dumas, comme Pierre Pevel. Il est bien connu du public pour sa saga de L'Ange du Chaos, sur le héros Celendil de Cortavar, dont il a proposé une sorte de spin-off sur le personnage du Loki Guéritarich. Il a également, je me rends compte qu'il me manque une de mes pages, une nouvelle saga qui s'ouvre, c'est que cette fois une héroïne. C'est son nom, Balafré. Il a par ailleurs, donc, commis un joyeux roman qui est un peu comme une blague potache entre amis autour des trois mousquetaires qui s'appelaient les quatre mousquetaires et plus si affinité pour le thème de cette table ronde. Ça m'a intéressé d'y jeter un coup d'œil un peu approfondi. On va essayer de voir avec tous ces invités ce qu'on peut entendre par fantaisie d'aventure. Et est-ce que c'est ça qu'ils ont l'impression de faire quand ils écrivent? Donc pour vous, première question volontairement large, c'est quoi la fantaisie d'aventure? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est la fantaisie d'action? Et est-ce que c'est en priorité ça que vous essayez de faire quand vous écrivez? Est-ce que vous avez en tête des questions de rythme? Vous essayez de faire quelque chose qui soit empli de péripéties palpitantes, qui vous pensez vos chapitres dans ces termes-là, avec envie qu'on tourne la page à la fin. Voilà. Est-ce que l'aventure, ça correspondrait à une stratégie d'écriture pour vous?
Le collègue m'a donné le micro. je ne sais pas si je suis mieux placé pour répondre en premier à cette question. Moi, je vais dire qu'en fait, je pense que, enfin, pour ma part, peut-être que Pierre dira la même chose, mais c'est vrai que je m'inscris un peu dans la tradition, on va dire, du quand tu parlais de tourner la page, du roman feuilleton, un petit peu, on parlait de Dumas, de Gensou ou de Maurice Leblanc, toute cette tradition où en fait, on essaie d'inciter le lecteur dans la construction, pour ma part, du récit, dans la construction des chapitres. À ce que, arrivé par exemple à la fin du chapitre, le lecteur se pose des questions sur ce qui va se passer après et a envie de continuer l'histoire. Ce qui est le plus amusant de faire, c'est quand on traite plusieurs, par exemple, personnages à la fois, que le lecteur arrive à la fin d'un chapitre avec un certain personnage, il n'a qu'une envie, c'est de sauter le chapitre d'après qui parle d'un autre, par exemple, et en fait, à la fin du chapitre suivant, il a envie de continuer avec le suivant. Moi, je sais que c'est vrai que pour la construction des chapitres, j'essaye pas de les construire comme des entités indépendantes, mais disons au moins de les penser pour qu'à chaque fois, à la fin, on ait une certaine chute. Et donc ça, voilà, c'est la. C'est vraiment, voilà, peut-être de la tradition un peu du roman feuilleton ou des choses comme ça. Ou aussi, puisque moi, le galop, c'est plutôt, en fait, dans cette tradition-là, des contes à la veillée. C'est-à-dire que chaque soir, on s'arrêtait, le conteur arrête son histoire, et de manière à ce que les gens reviennent la veillée suivante pour venir écouter la suite. Voilà.
Qui veut ajouter un peu son expérience?
Pierre Pevel, d'accord. Sur la trilogie des Lames du Cardinal, moi j'étais vraiment aussi dans une optique de série, de feuilleton, et je voulais créer quelque chose, un objet littéraire qui soit à mi-chemin entre la tradition du feuilleton littéraire, en effet, à la Dumas, enfin fin 19e, début 20e, tel que écrit Zévaco, Dumas, Féval, etc. Mais également les feuilletons, les séries télé contemporaines, qui ont des nouvelles, qui ont des techniques narratives extrêmement addictives, et parfois même dans des... alors que le contexte nous est totalement étranger et qu'on comprend pas grand chose à ce qui se passe. L'exemple même étant Dr House. Moi, il pourrait me raconter n'importe quoi, sortir de la poudre de perlimpinpin pour guérir les gens, ça reviendrait au même. Et pourtant, je reste accroché tellement les techniques narratives sont puissantes et efficaces. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les lames du cardinal. Et d'ailleurs, j'ai un découpage qui est plus en scène qu'en chapitre, en fait. Et là, vraiment, avec le souci d'une lecture qui devrait essouffler le lecteur, quoi. Voilà, l'impossibilité de s'arrêter, fonctionner sur le cliffhanger, le suspense, et des techniques qui sont loin d'être neuves, puisque même avant d'être appliquées par les feuilletonistes avec la suite au prochain numéro, mais même bien avant ça, j'étais très très surpris en lisant des textes même anciens, des premiers romans avec des chapitres qui s'arrêtent au milieu de l'action. Dans le Don Quichotte de Cervantes, il y a un chapitre qui se finit, Don Quichotte est prêt à être attaqué par un chevalier qui le charge, qui lève l'épée et qui fonce sur lui, et là boum, on a une fin de chapitre, hein. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, t'as vachement inventé le cliffhanger en littérature, garçon, bravo, c'est une réussite. Donc oui, la littérature d'aventure, c'est aussi une littérature qui du coup est formelle, je pense. Il faut qu'il y ait un rythme du récit qui s'adapte à ça, ou qui désarmerait le propos, je pense.
Il y a même un trailer entre les épisodes 2 et 3 des Lames du Cardinal, où la fin du deuxième volume est réécrite. Hein.
Oui, c'est une fin de saison, et donc on reprend la saison suivante.
Comme au début des séries télévisées, où on vous raconte ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, avec un nouveau montage un peu malin. Donc c'était exactement l'équivalent de ça. Je rebondis parce que Guillaume Lebeau, vous avez écrit aussi c'était Cold Gotha, donc c'est pas forcément le roman auquel... dont on devait parler aujourd'hui, mais qui est écrit comme 24, hein, qui est avec un découpage en heures, oui. Hein, et avec un principe de temps réel et des split screens à des moments, donc c'est vraiment ça m'y fait penser.
Oui, l'idée pour Cold Gotha, qui s'inscrivait dans une collection qui s'appelle Club Van Helsing, donc qui était une collection de fantasy urbaine, s'il faut mettre une étiquette, bien que j'aime pas trop les étiquettes, mais donc de fantasy urbaine, c'était d'arriver à me caler sur des techniques d'écriture qui sont des techniques d'écriture de storytelling, donc en fait d'écriture audiovisuelle et scénaristique, et de pousser en fait cette écriture jusqu'à son paroxysme, c'est-à-dire de vraiment plaquer le concept de la série télé, le plaquer sur un roman, et de voir ce qui pouvait... C'était une espèce d'expérimentation joyeuse et fun, avec la simple idée de voir si on pouvait, grâce à ces techniques-là, faire avancer un petit peu les lignes. On était en 2007 à l'époque. De faire avancer un petit peu les lignes formelles d'écriture d'un roman. Et puis, 3-4 ans plus tard, j'ai fait exactement l'inverse, puisque avec la saga de Sakari, j'ai choisi non pas de m'inspirer de techniques d'écriture moderne, mais de revenir à une technique ancestrale, peut-être d'ailleurs à la première technique d'écriture de roman fantasy au monde, à savoir celle de la saga qui naît au XIe siècle, qui naît grâce au roi de Norvège, les rois de Norvège qui avaient un ego démesuré, qui voulaient qu'on raconte leur vie et qui se rendent compte à un moment dans notre histoire que plus personne n'est capable de décrire leur vie. Et qui vont chercher en Islande des moines qui, eux, sont encore capables de rédiger ce que les rois de Norvège veulent. Et ces moines islandais vont inventer la saga. La saga, qui est un genre donc typiquement islandais, un peu norvégien, mais essentiellement islandais, et avec des techniques narratives qui sont finalement assez modernes. Ce sont des romans, les sagas sont d'ailleurs pas des romans, ce sont des fragments de vie en prose qui racontent la vie d'un personnage haut en couleur, qui a suffisamment marqué les esprits pour imprimer sa marque dans l'histoire, et qui dont on va parler en fait... des moindres faits et gestes quotidiens. Et ça, il me semblait intéressant de revenir à ces techniques donc premières, à cette première intention fantasy, d'écriture fantasy au monde, et d'essayer de la moderniser, mais en tout cas d'en garder l'essence.
Et est-ce que l'aventure est très présente dans les sagas que je connais mal, mais dont j'ai l'impression que c'est assez justement terre à terre ?
Alors il y a différents types. Il y a différents types de sagas en fait. Les premières sagas effectivement ne sont pas s'inscrivent pas dans un courant aventureux. Les premières sagas sont des tranches de vie, l'histoire d'une vie. D'ailleurs, je bondis souvent quand on utilise à tort le mot saga. Quand on parle par exemple de saga Star Wars, Star Wars n'est pas une saga. La saga vient d'un verbe qui est le verbe segia, qui veut dire conter, raconter, narrer. La saga, son unique but, c'est de vous conter une histoire plus ou moins réelle, mais avec beaucoup de réel quand même dedans. Après, il y a eu différentes sagas. Les sagas, le genre, en fait, c'est un peu développé pendant 3 siècles. Et on a des sagas mythologiques qui sont plus portées justement sur l'aventure. Donc, ils font intervenir le panthéon scandinave. Ouais. Donc ces sagas ont quitté le terrain du quotidien pour finalement nourrir l'imaginaire. Et la saga meurt au XIVe siècle, c'est-à-dire que c'est un genre littéraire qui a duré en gros 3 siècles et demi.
D'accord. Donc on a un grand échantillon hein, de références différentes comme modèles possibles hein, de traditions pour ces romans d'aventure qui viennent nourrir et se réinventer dans la fantasy aujourd'hui. Donc je me tourne vers Peter Brett. À laquelle de ces traditions vous rattacheriez-vous davantage davantage? Est-ce qu'il faut remonter au Moyen-Âge, au romance d'origine, ou au contraire aller puiser dans les ressources les plus récentes de l'écriture audiovisuelle? On n'a pas parlé encore de l'influence de la fantasy américaine, tout simplement, de l'âge d'or, des Moorcock, etc.
I think, of course, I'm influenced by everything that I've enjoyed over the years, both books and movies and television shows and all of those things.
Bien évidemment, je suis influencée par tout ce que j'ai lu au cours des années, mais que ce soit que j'ai lu les bouquins ou alors aussi les séries télé, tout ce genre de choses.
Including a lot of the classic American fantasy authors like Tolkien and Terry Brooks and Robert Jordan.
Tolkien is an American.
Well, English, I mean English speaker.
Et donc inclut tous les grands auteurs de fantasy américains. Non, it's okay. Non, je le taquine un peu. Non, donc il parlait de Tolkien, qui est donc évidemment anglais, and Terry Brooks, you said. Et Terry Brooks aussi.
But I don't know that I'm necessarily trying to imitate the style of any of those.
Mais je sais pas nécessairement d'imiter le style de l'un d'entre eux, d'aucun d'entre eux.
When I try and take a reader on an adventure, I want them to face the same sorts of emotional problems that they do in real life.
Quand j'emmène le lecteur dans une aventure de fantasy, j'aime bien essayer de les confronter au même genre de problèmes qu'ils affrontent dans la vie de tous les jours.
But by adding a magical element to it that can make it exciting and make it more of an adventure.
Mais en y ajoutant des éléments magiques qui peuvent rendre ces aventures plus excitantes et plus aventureuses.
But the point is always for the reader to be able to relate to the characters and understand what they're going through.
Mais la question, l'intérêt, c'est toujours de faire en sorte que le lecteur puisse s'identifier au personnage et se rattacher à ce qu'il est en train de faire.
And this is why I tend to have a lot of different characters in my books who each have their own point of view and perspective chapters.
Et c'est pour ça que j'ai tendance à avoir beaucoup de personnages différents dans mes livres, des personnages qui ont chacun leur point de vue, qui ont chacun leur voix dans le livre.
So sometimes the reader can have the experience of reading about someone who's very much like them going on an adventure.
Donc parfois il arrive que le lecteur puisse lire quelque chose à propos d'un personnage qui a des aventures et qui lui ressemble beaucoup.
And other times they can put themselves in the shoes of someone very different from them and see how that character sees the world and interacts with the world and understand what it's like to be them.
Et donc parfois le lecteur peut rencontrer un personnage qui ne lui ressemble pas du tout et voir de quelle façon ce personnage-là voit le monde, interagit avec le monde.
Now when it comes to storytelling style, I believe that most very successful books have some common traits.
Donc en ce qui concerne la narration elle-même, je pense que la plupart des livres qui ont eu le plus de succès ont des traits en commun.
So as Pierre said before, these are not new techniques.
Donc comme Pierre l'a dit auparavant, c'est pas des techniques nouvelles.
For me, I like to structure my book into chapters where each chapter is its own adventure.
Pour moi, j'aime bien structurer mon livre de telle manière que chaque chapitre soit une aventure en lui-même.
So the characters have to solve a series of problems that are increasingly difficult as the story goes on.
Donc les personnages doivent résoudre une série de problèmes qui deviennent de plus en plus difficiles à mesure que l'histoire progresse.
And in doing so, they learn more about the world, they become more experienced and more powerful.
Et en faisant, et au fur et à mesure, ils en apprennent plus sur le monde, ils acquièrent plus d'expérience, ils acquièrent plus de pouvoir.
So that problems that at the beginning of the book seemed completely insurmountable become more and more within their reach.
Et donc les problèmes qui au début du bouquin semblaient complètement insurmontables deviennent de plus en plus à la portée des personnages.
And in many ways this is the experience I think that everyone has in their lives where they start out and they're inexperienced and they don't know how to do things. And then with practice, they get better and get skills.
Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que ça se passe pour dans la vie de tous les jours pour à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, on connaît pas grand-chose, et puis plus ça va, plus on obtient de la pratique, de l'expérience, on apprend, on découvre de nouvelles choses, et on arrive à devenir meilleur.
So usually, I'll have a chapter where a character encounters a problem. Suffers a little bit.
Donc d'abord, j'ai un chapitre, je commence avec des chapitres où un personnage va rencontrer un problème, souffrir un petit peu.
But then once they solve that problem, they immediately encounter a problem that's way worse than the one that they just
Mais
solved.
Voilà, une fois qu'ils ont résolu ce premier problème, ben ils vont affronter un nouveau problème qui est 10 fois pire que le premier problème qu'ils ont rencontré.
And by doing this, it holds the reader's interest so that when they reach the end of a chapter, they're excited to move on to the next one to see how the character will manage the next problem.
Et donc comme ça, le lecteur reste excité dans l'attente de voir comment le personnage va réussir à résoudre ses problèmes les uns après les autres. Okay. Thank
you. Donc la fantaisie est aussi une manière d'avoir à disposition un monde qui est suffisamment plein d'aventures pour qu'on découvre les possibilités qu'il y a dans chaque personnage et qu'on les confronte comme ça tout un a plein de sentiments différents.
Yes, I think that I try to write about things that are experiences that everyone shares.
Oui, j'essaie d'écrire à propos de choses qui sont des expériences que tout le monde peut partager.
Fear of the dark.
La peur du noir.
Which is one of the main themes in the story where the world where I've set up, when the sun sets, monsters come out in the dark, very, very real ones.
La peur du noir est un des thèmes principaux de ce roman, justement, parce que quand la nuit tombe dans cet univers-là, les démons sortent justement dans la nuit et on peut plus sortir à l'extérieur.
And it's only through protecting yourself with magical symbols that you can hold these monsters at bay.
Et ce n'est qu'en se protégeant avec des symboles magiques, donc des runes, qu'on peut garder à distance les démons.
This is a concept that since the beginning of storytelling and since the beginning of writing has occurred in many, many cultures.
C'est un concept qui s'est développé dans beaucoup, beaucoup de cultures depuis le début de la narration et depuis qu'on raconte des histoires.
So these sorts of shared experiences that we all have, and we all have innately these fears and these concerns, these are the things I try and write about so that when the characters go on an adventure, the reader can feel that they're gaining strength as well.
Donc en fait, ce genre d'expérience, ces peurs que l'on partage tous, que l'on a tous en nous, j'essaie d'écrire à propos de ça, de façon à ce que quand le personnage affronte des problèmes, affronte des situations, le lecteur puisse ressentir ces émotions-là et s'identifier.
So sometimes I'll choose problems that have been around forever like that, and other times I'll choose more modern problems like the difficulties between two cultures getting along with one another.
Par exemple, et donc des fois j'utilise des problèmes, des types de problèmes comme ça, qui sont très communs, que tout le monde partage, qui sont très anciens, et parfois j'utilise je parle de problèmes beaucoup plus modernes, comme par exemple l'affrontement de deux cultures, la rencontre et l'affrontement de deux cultures.
So that these are things that we all worry about every day.
Donc c'est des choses à propos desquels on peut s'inquiéter tous les jours.
But are put in an exciting fantasy setting where there's an adventure and there's magic and other things to keep it entertaining as well as
worrying. Et donc, mais je les place dans un univers de fantasy où il y a de la magie pour faire en sorte que ce soit divertissant et plus excitant.
Alors Michel Robert, vous n'allez pas y échapper. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Peter Brett qui correspond, parce que vous êtes connu pour une fantaisie également, une fantaisie d'action.
Oui, je le revendique tout à fait, effectivement. Moi, j'écris de la fantaisie d'action. Je rejoindrai plutôt Pierre
dans l'influence des séries américaines. D'ailleurs, mon cycle principal est découpé. J'ai écrit 5 tomes qui correspondent à la première saison, et là, j'ai terminé le 6e tome qui va paraître à la rentrée et qui sera le début de la deuxième saison. Moi, je me suis beaucoup inspiré du cinéma, pas forcément du cinéma de fantasy d'ailleurs, mais je pense par exemple à Indiana Jones, le premier Indiana Jones, lorsqu'il est sorti au cinéma. Les premières scènes, c'était vraiment une énorme claque pour les spectateurs, parce que cette espèce de rythme complètement effréné, ça n'existait pas. Et moi, je suis effectivement très sensible à la notion de rythme dans mes romans, et j'essaye d'en mettre le plus possible. J'essaye justement de proposer à mes lecteurs un pur divertissement, comme quand on va au cinéma.
Oui, il y a des scènes de combat qui viennent régulièrement chez vous, rythmer.
J'ai des scènes de combat qui sont un peu particulières, parce que c'est vrai que je les chorégraphie comme le cinéma asiatique ou les premiers films de Jackie Chan, effectivement, ou de Bruce Lee.
Une autre influence peut-être qui aussi contribue, apporte aussi sa marque à la fantasy d'aventure. Quand Peter Brett parlait du personnage qui avance d'épreuve en épreuve, quand vous citez le début du premier Indiana Jones, où c'est cette série de pièges qu'il déjoue les uns après les autres pour réussir à entrer dans un des nombreux temples qui jalonneront sa route, c'est le jeu. Qui me vient à l'esprit, les différentes le fonctionnement d'un jeu de rôle ou un personnage précisément auquel un joueur s'identifie va comme ça traverser une série d'épreuves, réussir à venir à bout d'une série de pièges.
C'est plus, à mon avis, du ressort de l'exploration. En fait, la fantasy, selon moi, c'est une création d'univers avant toute chose. On crée des univers et après l'aventure, c'est le lecteur qui la trouve. C'est le lecteur qui va trouver ou non l'aventure dans l'univers qu'on déploie. En cela, la fantaisie, elle vient...
Il faut bien lui indiquer le chemin quand même.
Oh non, il est très intelligent, le lecteur. Il trouve son chemin lui-même. C'est ce qui fait la force de la littérature, c'est que, par rapport par exemple au cinéma ou à l'audiovisuel en règle générale, c'est que... J'ai beau décrire un héros de la façon la plus précise, il y aura toujours autant de héros qu'il y aura de lecteurs. Chacun s'inventera son propre héros et plaquera le propre visage de son héros. Je crois que l'aventure, en fait, elle naît grâce au lecteur. Nous, on est des explorateurs, et la fantasy, c'est l'exploration. Jusqu'au 19e... Fin du 19e, la fantasy, c'était Shackleton, c'était le roman de voyage, c'était l'exploration d'un monde qu'on ne connaissait pas, le nôtre réel, celui qu'on découvrait grâce donc au récit de ces grands aventuriers, de ces premiers auteurs de fantasy finalement, ceux qui la vivaient en même temps, parfois, qui l'écrivaient. Nous, aujourd'hui, pour certains, on la vit encore, mais dans une moindre mesure. On ne va pas conquérir les pôles, on ne va pas passer 6 mois bloqués dans la glace, mais on est quelque part des explorateurs. On va explorer de nouveaux univers, on les déploie, et dans cet univers-là, je n'y place pas particulièrement d'action, d'aventure. Je laisse se déployer l'univers, et dans cet univers-là, l'aventure, vous allez la trouver, parce que de toute façon, elle s'y matérialise quasiment toute seule.
Moi, je voulais dire aussi qu'il y a toujours, peut-être pas forcément dans toute la fantaisie, je ne sais pas, mais il y a toujours une quête aussi, une dimension initiatique de toute façon dans le récit. Les aventures du héros qu'il traverse. Tout à l'heure, Peter parlait, voilà, les épreuves deviennent de plus en plus dures au fur et à mesure du récit. Il est évident que le héros traverse ces épreuves, donc change au fur et à mesure de ces épreuves, et petit à petit se réalise. Et donc moi, c'est une dimension qui est importante dans mes récits, puisque m'inspirant du conte, c'est un peu la base même du récit. Moi, mon héros se découvre la malédiction d'être, enfin, le pouvoir d'être galou. Il va falloir qu'il apprenne à dominer, à dompter ce pouvoir, à se réaliser, à s'accepter lui-même. Après, il y a tout à l'heure, je parlais du style. Il y a le style qui est important. Moi, pour moi, il était important, par exemple, et je pense que Pierre, pareil, c'est un style qui est différent. Moi, il était important d'essayer de retrouver un phrasé, un style qui correspond justement au conte, c'est-à-dire de se placer dans la peau d'un conteur, par exemple, de campagne, un petit peu, qui va raconter une histoire fantastique et qui, par exemple, des fois, à la place d'employer un adjectif très compliqué, va essayer de trouver une métaphore, par exemple, beaucoup plus parlante. qui est une technique de narration. Par contre, après ça, toute la difficulté est de jongler entre cette technique de narration et des moments d'accélération où il va y avoir de l'action et qui sont moins compatibles avec ce ton un petit peu de conte ancien. Donc tout il faut jongler avec ça dans les chapitres pour réussir à marier les deux, en fait. C'est un peu une espèce de grand écart.
Tous les deux, en même temps, vous êtes un peu, a priori, les seuls explicitement dans cette table ronde à écrire, dans ces romans-là en tout cas, pour les adolescents.
Oui, peut-être. Peut-être. Adolescents et adultes, moi je veux dire, après ça, oui, ça commence après 9 ans et puis après voilà.
Une fantaisie tout public,
c'est pas une invention, une invention marketing, c'est la littérature adolescente. C'est pas une invention pour destinée à. Enfin, est-ce que vous croyez très franchement
je pose
que
la question à vous, hein.
Dumas, par exemple, écrivait pour les adolescents et pourtant les adolescents peuvent se retrouver dans du Dumas aujourd'hui sans aucun problème.
Vous avez des héros
adolescents.
Est-ce que
vous pensez que Tolkien écrivait uniquement pour les adolescents?
Tolkien, on lui a dit la première fois que ça a été lu, je crois, c'était le fils de son éditeur qui a dit bon, c'est un bon récit, mais c'est pour les enfants. Je crois qu'il envoyait cette note à son père qui était.
Bilbo, c'est voilà, pour Bilbo.
C'est
ça. Qui
était pour Bilbo.
Oui, c'était pour Bilbo. Il a dit ce sera très bien pour un enfant de 6 ans, il en avait 7.
Il est ensuite devenu l'éditeur de Tolkien pendant toute sa vie, le petit garçon en question.
Oui, je pense intimement qu'on écrit, on n'écrit pas une histoire. Enfin, là, ça n'engage que moi, mais moi, j'écris jamais pour un public. J'écris une histoire. Voilà. Après, elle trouvera le public qu'elle trouvera. J'écris pas pour les adolescents. D'ailleurs, je sais pas ce que ça veut dire. J'en ai moi-même un à la maison. Je serais bien en peine de savoir exactement ce qu'il a envie de lire, comment il faudrait écrire pour lui plaire, parce qu'il est capable de lire à la fois du Stephen King ou de lire du Fabien Clavel ou de lire. Donc, franchement, je suis incapable de réduire ce que peut être une cible. Et je pense qu'on très 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 sincèrement, je pense qu'aucun auteur ne pense réellement quand il écrit à la cible. Il pense avant tout à son histoire. Il pense avant tout à ce qu'il veut faire passer comme message éventuellement, à ce qu'il a envie de mettre dans cette histoire-là. Mais je pense qu'on se pose jamais cette question-là. C'est une question d'éditeur. C'est une question ça. C'est cette question d'étiquette. Oui. C'est une question d'éditeur qui veut absolument, qui est persuadé que si on met des étiquettes sur les livres, ils vont mieux se vendre. Ce qui est vraiment réducteur. Pratiquement. Oui, non, mais faux. Il faut combien de livres ne sont pas lus par des lecteurs parce qu'on a plaqué des étiquettes dessus, parce qu'on a dit que c'était de la SF, parce qu'on a dit que c'était de la fantasy, parce qu'on a dit que c'était du polar. Combien de lecteurs ne vont pas lire des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale parce que on les a catalogués, ces chefs-d'œuvre-là. Combien de gens ne vont pas lire Tolkien simplement parce qu'on a dit que c'était de la fantasy? Tolkien, c'est tout sauf de la fantasy. C'est plus que de la fantasy. C'est simplement un chef-d'œuvre de la littérature mondiale.
Et ça commence à être assez reconnu.
Mais combien de temps il a fallu pour arriver et pour transcender ça, pour transcender cette étiquette de fantaisie avec, c'est parce qu'il y a des gens avec des oreilles pointues dedans, forcément, ça ne peut intéresser que les gens qui aiment les gens avec des oreilles.
Moi, il m'arrive régulièrement, c'est sur le Yalou, des gens qui sont tombés dedans, qui l'ont lu sans savoir où ils allaient, et qui m'ont dit bon, alors d'habitude, je n'aime pas le fantastique, mais vous, j'ai beaucoup aimé. En fait, quand j'entends ça, j'entends, j'avais jamais lu de fantastique. En fait, je m'en étais fait une idée. Et en fait, quand je dis, ah tiens, c'est pas du tout ce que je pensais.
Bon, je reformule.
Mais c'est un autre débat.
La dimension initiatique est très développée dans, alors là, pour le coup, peut-être moins chez Pierre, hein, qui prend des héros plus formés, mais la formation du héros à travers les épreuves qu'il traverse, c'est quand même une des bases narratives de la fantasy et ce qui la relie le plus directement à la tradition du roman d'aventure.
Oui, c'est vrai, et j'ai l'impression que je m'en passe, et ça m'inquiète presque. aurais-je raté quelque chose? Non, c'est vrai que mes bouquins sont pas franchement des romans d'initiation, hein, c'est pas des romans d'apprentissage, en tout cas. Mais mes héros, ils savent déjà ce pourquoi ils sont déjà compétents dans ce qu'ils sont censés faire. James Bond, il est déjà James Bond au début du bouquin.
C'est Céline Dill aussi, mais après on a un flashback on a des flashbacks qui vont nous
moi effectivement
nous raconter un peu sa formation.
Contrairement à mes collègues, à mes estimés collègues, je dirais, ma fantaisie n'est pas une fantaisie tout public. Très violente. Il y a du sexe clairement décrit, donc les plus jeunes.
Mon Dieu.
Tu savais pas?
Mais dans certains romans de Guillaume aussi, donc.
Donc effectivement, c'est pas pour les plus jeunes. C'est vrai que moi,
le sexe, c'est sale.
Oh, t'es hypocrite là. C'est vrai que j'ai pas le, j'ai pas le de construction par rapport à un parcours initiatique ou par rapport à ce genre de choses. Comme Pierre, mes personnages sont déjà sont effectivement compétents et ils sont déjà passés au stade supérieur, c'est-à-dire que leur initiation elle a déjà été faite et ce sont des adultes et voilà, ils ont des aventures, mais comme je le dis, moi j'ai écrit une fantaisie plus adulte. Voilà.
Ce que je voulais dire tout à l'heure pour reprendre, et je vais peut-être arrêter parce que je monopolise la conversation. Et par exemple, je vois dans Franquia, c'est pareil. Il y a des scènes que ce soit de sexe ou même d'amour. C'est-à-dire, après ça, ce que je dis, c'est que pas cataloguer le livre, c'est-à-dire que là, par exemple, pour Franquia, je dis pas en dessous d'un certain âge pour un certain lectorat. Mais par contre, après, je vais pas cataloguer le livre. Le Galou, je dis à partir de 9 ans. Franquia, je dis à partir de 17 ans, par exemple. Mais c'est tout. Après, est-ce qu'il y a une catégorie pour adultes, pour ados
Effectivement, cataloguer, c'est réduire. Donc, on peut pas cataloguer. Maintenant, c'est vrai que moi, ce que j'écris. Ça m'est déjà arrivé de dire à certains lecteurs potentiels ou non, c'est, je suis désolé, c'était trop jeune, ou dire à un parent non, je suis désolé, c'est pas pour votre enfant.
C'est pas pour cet âge-là, mais après, c'est pour qui ? Pas en dessous de tel âge, mais après, n'importe qui. voilà, à quelqu'un, ben non, c'est pas en dessous de tel âge, parce que ben, le lectorat, c'est pas ça, mais après, ça peut être pour n'importe qui. Voilà, mais pas leur dire, ah ben c'est pour ados, c'est pour adultes, bon, c'est. Voilà. Il vaut mieux être adulte pour le lire, mais après, les gens font ce qu'ils veulent.
As Guillaume said, it's impossible to try and write to an audience.
Comme Guillaume l'a dit, c'est impossible.
You have to write the story that you want to
write. I'm not finished. comme l'a dit Guillaume, c'est impossible d'essayer d'écrire pour un public précis, pour une cible précise.
You have to write the story that you want to write.
Il faut écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire.
And so, for me, I always found the stories of someone becoming a hero to be more interesting than the story of the hero who is already puissant.
Moi, j'ai toujours trouvé, pour ma part, que c'était plus intéressant d'avoir une histoire avec un personnage qui grandissait, qui évoluait pour devenir un héros, plutôt qu'un personnage qui était déjà un héros à la base et qui était déjà puissant.
But at the same time, I write stories that are full of a lot of action, a lot of fighting, a lot of blood. There's some sex. There's lasting injuries that come from things.
Mais en même temps, dans mes bouquins, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, il y a pas beaucoup de sexe, il y a de la violence, il y a du sexe, il y a des blessures, les personnages reçoivent des blessures qui durent pendant un certain temps, des blessures graves.
Because this is the real world, and I want the readers to feel like my world is real too.
Parce que c'est ça le vrai monde, c'est ça la réalité, et donc j'ai envie que mon lecteur ait l'impression que voilà, ce monde-là aussi est réel.
And that means when you have an adventure and you get into a fight or you have sex or you do other things, there are consequences to that.
Et donc ça veut dire que quand vous êtes dans une aventure, même vous allez combattre, quand vous faites l'amour avec quelqu'un, il y aura forcément des conséquences.
And so sometimes people will ask me, well, I have a 13-year-old son or I have a 13-year-old daughter, is this book good for them?
Et donc des fois il y a des gens qui viennent me demander, voilà, qui me disent, moi j'ai un fils ou une fille de 13 ans, de 14 ans, est-ce que c'est un livre qu'ils peuvent lire?
And I'll say, I can't answer that for you because it's up to you to say how much of the real world you want to hide from your child.
Et donc je leur réponds, je peux pas savoir à votre place parce que c'est à vous de savoir quelle part du monde réel vous voulez cacher à votre enfant.
Because exactly. In life now, horrible things happen to children every day.
Parce que de nos jours, il y a des choses horribles qui arrivent aux enfants tous les jours.
I have a young daughter and I want to protect her from some of those things just like anyone else.
J'ai une petite fille et je veux la protéger de toutes ces choses comme n'importe qui d'autre.
But there can be a danger in protecting your children so much from the real world that they're not ready for it when they have to face it.
Et donc il y a du danger et donc il faut pas protéger ses enfants au point qu'ils seront incapables d'affronter le danger au moment où ils le rencontreront.
So in my stories I tend to start out with a character when they're very young.
Donc dans mes livres, j'ai tendance à démarrer avec un personnage au moment où il est très très jeune.
And tell of their adventures through the course of a book so that by the end of the book they're an adult.
Et donc je raconte leurs aventures tout le long du livre, comme ça à la fin du livre, ils sont devenus adultes.
And then as the series continues, those adults who've already become strong and experienced continue to have adventures.
Et donc, at the end of the series?
Or at the end series. Of each, or as the books continue. Yeah.
Et donc, à mesure que les livres continuent, ces adultes qui seront devenus plus puissants vont continuer à avoir des aventures.
But then I'll pick some of the other characters that are having adventures with them.
Mais je choisis certains des autres personnages du livre qui vont avoir des aventures avec eux.
And go back in time and show what they were like when they were young.
Et j'ai des flashbacks dans le temps et je montre à quoi ils ressemblaient quand eux étaient jeunes aussi.
And how they gained their experiences and how that made them the person that they are.
Et comment ils ont gagné de l'expérience et comment en quoi ça a fait d'eux les personnes qu'ils sont aujourd'hui.
And I think that this helps the reader to understand the characters that they're reading about, and when they make decisions, they know why that they're making those decisions because they understand the beliefs of each character.
Et donc je pense que ça aide le lecteur à comprendre les personnages, parce qu'à chaque fois que les personnages font une décision ou ont une action quelconque, le lecteur peut comprendre les raisons profondes et les croyances intimes de chaque personnage.
J'aime beaucoup cette conception de la fantasy qui va complètement à l'inverse de la littérature d'évasion où il s'agit
une littérature d'expédition.
De faire découvrir le réel et les horreurs, le réel dans son horreur, y compris aux jeunes lecteurs. C'est un peu la façon, une façon de retourner complètement une critique qui est habituellement formulée à l'égard de.
Mais parce qu'on oublie que c'est une vraie littérature d'expédition. Il y a certes l'initiation des personnages, mais il y a une du lecteur, c'est-à-dire que à travers ces personnages qui effectivement grandissent à travers une quête, nous-mêmes on est impliqués en tant que lecteur et donc on grandit également avec. Et en ça, c'est une expédition et on relie encore une fois, mais ça c'est mon truc à moi, c'est que je pense que la fantasy, l'aventure, il y a une filiation en fait réelle avec ces grandes expéditions qui ont fait qu'on a découvert en fait notre monde avec ces grands explorateurs. Et la lectura d'un roman de fantasy, ça implique en fait que le lecteur admette qu'il embarque. Il embarque pour un ailleurs et qu'il en sortira différent à la fin, tout autant que les personnages qu'il a rencontrés pendant sa lecture. Et je crois que ça, c'est à mon avis, un des fondements de la fantasy, de ce qui caractérise la fantasy et qui en fait un genre à part entière dans la littérature.
Je suis bien d'accord. Il va bientôt falloir qu'on conclue. Je trouvais qu'une question s'imposait parce que je regarde autour de moi et je ne vois que des hommes. Et donc, est-ce que... voilà, donc la question se pose. La fantaisie d'aventure, la fantaisie d'action, c'est un truc de mec. C'est plutôt destiné à la partie masculine du public. Si vous avez toujours... Sauf Guillaume qui ne pense pas en termes de découpage de lectorat, quel qu'il soit.
C'est aux dames qui ferait poser la question, en fait.
Moi, j'étais frappée par la composition de la table ronde, parce que je n'irai pas dans ce sens-là, hein, et je tends plutôt à aller contre les images habituelles d'une part, en tout cas machiste, de la fantasy. Donc, je ne sais pas, c'est un hasard de cette année où il y a quand même... Notamment Michel, est-ce que vous avez l'impression que votre lectorat est plutôt masculin ?
Ah, mon lectorat, clairement pas.
D'accord.
Parce
que le lectorat de la fantasy, contrairement aux idées reçues, est plutôt féminin.
Mais c'est pas que la fantaisie. Hein. Attention, c'est pas que la fantaisie. Les mecs ne lisent pas. Je répète, vous êtes des bœufs.
Les lecteurs sont des lectrices.
Les filles lisent beaucoup plus que vous. Je répète. Non, c'est une réalité chiffrée, statistique. Même dans le polar, dans tous les genres, quels qu'ils soient en littérature.
Dans le polar,
le lectorat est à 60, voire parfois, dans certaines niches, 70% féminin. Voilà, c'est très clair, c'est une tendance lourde.
Et maintenant,
qui explique beaucoup de malheurs dans le monde d'ailleurs. Si les hommes lisaient un peu plus, ça irait certainement beaucoup mieux.
Dans les stratégies marketing, il va y avoir des toujours hein, éditorial, donc qui ne sont pas dans la tête des auteurs, mais des choses qui sont plutôt marketées pour les femmes, donc typiquement le sentimental, et des choses qui sont plutôt marketées pour les hommes, le dark. Enfin, le dark, non, parce qu'il y a des vampires séduisants.
mais la fantasy d'action, l'epic fantasy, exactement, merci, que j'aurais voulu traduire comme ça dès le départ. Voilà, ce qui est réminiscence de l'épopée va plutôt être considéré comme quelque chose de masculin.
Au risque de dire une bêtise, j'ai l'impression qu'il y a plus d'écrivains hommes tournés vers la fantasy d'action pure. Ça, c'est un fait. Maintenant, le lectorat en lui-même, je peux parler que du mien. J'ai des hommes et j'ai des femmes et voilà. Et je saurais pas dire s'il y a plus d'hommes ou plus de femmes, mais c'est quand même très très mixte.
Et le fait de vous être tourné vers une héroïne, hein, c'était ça vient d'où?
C'était pour voir si j'arriverais justement à créer un personnage féminin et à le gérer pendant tout un roman. J'avais envie de créer une femme avec un mauvais caractère et donc voilà, j'en ai fait un roman et bon, je pense que ça a bien plu.
Oui, tout à fait. C'est justement une manière de sortir un peu d'éventuellement l'image de la fantaisie, ouais, d'action et de... Avec des scènes de sexe, et là on a la même chose, mais du côté de d'une héroïne. Exactement. Pierre ou Peter, comme vous voulez.
I don't believe that epic fantasy is just for men.
Je ne crois pas non que la fantasy épique soit juste pour les garçons.
As it's been said, the majority of readers tend to be female right from the start.
Comme vous l'avez dit, la majorité des lecteurs tendent plutôt à être des femmes dès le début.
And I know a great many wonderful female writers who are writing epic fantasy. Some of them here at this very convention.
Et donc, mais pourtant, je connais beaucoup de super écrivains femmes qui écrivent de l'epic fantasy, et certaines sont même là aux Imaginales.
The other night I had dinner with Robin Hobb and Trudy Canavan, two wonderful epic fantasy writers.
J'ai dîné avec Trudy Canavan et Robin Hobb, qui sont deux excellents écrivains d'epic fantasy.
I think this is a challenge for every author, is that whether you're male or you're female, you're going to have to write characters who are the opposite gender.
Et je pense que c'est un défi pour tous les écrivains, que l'on soit homme ou femme, il va bien falloir que l'on écrive à propos de personnages qui, eux, sont d'un genre différent d'une autre.
And it's important to realize that every person is different. There are billions of people in the world, and not all women believe the same things, and not all men believe the same things.
Et il est important de réaliser que tout le monde est différent. Il y a des milliards de gens sur Terre, et les femmes pensent différemment, les hommes pensent différemment, tout le monde.
So if you create characters that are sufficiently complex, you can have a sampling and I try to have characters from every walk of life. I try to have characters that are rich and that are poor and that are male and that are female and that are warriors and that are not warriors.
J'essaie d'avoir un aperçu assez général de tous les types de personnages qu'on pourrait avoir, des personnages masculins, des personnages féminins, des personnages qui sont guerriers, des personnages qui sont pas guerriers, pour avoir un aperçu global de toutes les différentes façons de penser et de vivre.
This is part of creating a world, and you can't populate the world that you've created with only one gender, or having everyone acting as if they're just one gender.
Et ça fait partie de la création d'un monde, parce que vous pouvez pas peupler votre monde avec un seul genre, avec que des femmes ou que des hommes, avec des gens qui agissent tous comme des hommes ou tous comme des femmes.
So there are some writers who will write a female character and basically just write a male character but make it a woman.
Et donc il y a certains écrivains qui vont écrire à propos d'un personnage féminin, mais qui en fait basiquement vont juste écrire un personnage masculin et mettre un nom féminin dessus.
So that's something that you need to be careful about, but to think that the whole genre is meant for boys is the same thing as saying that all fantasy is meant for children.
Et donc penser que tout le genre de la fantasy est fait pour les garçons, c'est dire à peu près, ça revient à dire que la fantasy est faite pour les enfants.
I think that
c'est à peu près la même chose que de dire ça.
I think these are the misconceptions of people who haven't read and known and loved these sorts of books.
These are misconceptions of people.
That it's just for boys or something like that. Or these
je pense que ce sont des reçus de gens qui ont lu ce genre de bouquin et qui se font l'idée que c'est juste pour des garçons, que c'est juste pour les hommes ou juste pour les femmes.
À quel sujet?
Mot de la fin.
Un mot de la fin, bon alors je vais faire quelque chose que je fais pas souvent. Je lis assez peu de, fantasy pour des tas de raisons qui n'intéressent personne. Mais dernièrement, sachant que j'allais participer à cette table ronde et que j'allais rencontrer Peter, j'ai demandé à mon éditeur, qui se trouve qu'il le publie en français, L'Homme Rune. Je l'ai commencé, j'en suis à la moitié et c'est vraiment vraiment un très très bon livre. Donc si vous connaissez pas Peter Brett, si vous n'avez pas lu L'Homme Rune, allez-y. J'en suis à la moitié, je vous parle, peux vous parler que de la moitié, mais c'est vraiment très très bien. La première partie est un roman d'apprentissage qui, avec une vision des adultes à travers les yeux des enfants, qui est vraiment vraiment intéressante. Et la seconde partie, où là il y a des scènes très courtes, un montage très nerveux, beaucoup d'action, c'est passionnant. Bravo, c'est un grand livre.
Merci à tous.